Quand on travaille la couleur, les matières en architecture d'intérieur, on le ressent tout de suite, l'impact que ça a sur nous par rapport à une œuvre d'art où soit on a vraiment cette sensibilité à la comprendre ou soit on ne l'a pas du tout et on ne la comprend pas, mais il faut quand même des clés. Alors que l'architecture d'intérieur, même sans avoir les clés, tu peux ressentir les choses. Tu vois. Tu rentres dans une pièce, t'es bien ou t'es pas bien.
Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin.
C'est grandir à l'intérieur.
Je crois qu'il faut se brûler. Il faut vivre, se reconquérir.
Parce que les femmes sont fortes.
Celles qui osent.
Bonjour Maïlys.
Salut Lucie.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est un grand honneur.
Écoute, on va entrer dans le vif du sujet. Raconte-moi un petit peu qui tu es.
Écoute, je dois dire avant tout à tous ceux qui nous écoutent que cette interview n'a pas été préparée une seule seconde. Donc je te remercie, Lucie. J'adore démarrer les interviews comme ça. Qui je suis ? Je suis Maïlys Dorn, architecte d'intérieur, fondatrice de Home. H-O-M-E comme habite et optimise mon espace. Donc, qu'est-ce que c'est Home ? Eh bien, c'est un réseau, c'est une communauté, c'est une école pour apprendre et promouvoir l'architecture d'intérieur pertinente, qui est une architecture d'intérieur au service de l'habitant et non plus seulement au service de mode, de visuel, d'esthétique. Voilà. Est-ce que tu veux que je t'en dise plus ?
Alors, aujourd'hui, donc, cette Home, attends, avec l'accent du sud, c'est difficile pour moi de dire le O.
Home.
Home. Home. Home, tu formes aujourd'hui des personnes principalement en ligne, donc tu es infopreneur, on appelle ça infopreneur. C'est tu as ça. Combien d'élèves aujourd'hui ?
On en a 650 aujourd'hui, enfin depuis le début du programme hein, qui a été lancé en 2017, mais c'est vrai que c'est vraiment exponentiel hein, puisque là on s'est lancé pendant quasiment un an. J'ai vraiment accueilli au compte-gouttes les élèves pour pouvoir tester la formation jusqu'à ce que je sois sûre qu'elle soit parfaite. Et puis ensuite j'ai ouvert les portes un peu plus officiellement et puis petit à petit voilà, j'ai fait un petit peu de pub, mais finalement assez peu, tout s'est fait au travers du blog Optimise mon espace qui existait déjà depuis 2015. Et ça s'est fait assez naturellement en fait, puisque c'était pas forcément prévu au départ. Quand j'ai lancé ce blog, je savais juste que j'avais envie de changer le monde, mais je savais pas trop comment.
Donc aujourd'hui, tu changes le monde de cette manière et tu formes des personnes qui vivent de ce métier. Elles deviennent architectes d'intérieur, c'est ça ?
Alors, il y a trois programmes en fait. Le premier s'appelle Atelier Home et il a la particularité de pouvoir être suivi par quatre types de profils. Ça peut être effectivement des personnes qui sont en voie de reconversion, qui ont envie de tester le métier avant de se reconvertir définitivement. Et c'est la majorité en fait de nos élèves. Mais c'est un programme que j'ai volontairement voulu accessible également à des particuliers qui ont envie de reprendre en main leur projet de maison, à des investisseurs en immobilier et aussi à des professionnels donc qui ont déjà fait des études d'architecture d'intérieur ou feng shui ou des professionnels de l'habitat qui n'ont pas acquis à l'école la méthodologie que j'enseigne, qui est vraiment comment suivre un projet de A à Z avec un client. Enfin, à partir du moment où on a un projet de rénovation de maison ou de construction, qu'est-ce qu'on fait, d'où on commence et jusqu'à la pendaison de crémaillère, quelles sont toutes les étapes en fait. Donc avec différentes techniques, évidemment j'enseigne particulièrement l'optimisation d'espace, mais l'ergonomie aussi de la maison, donc une maison qui soit au service de l'habitant. Et c'est des choses qui sont très mal enseignées à l'école, c'est pour ça que c'est un programme qui peut s'adresser à des professionnels, donc des architectes, qui sont jamais en fait allés pendant leurs études sur le terrain en réalité, donc qui n'ont pas forcément cette notion-là de contact avec le client, d'ergonomie de la maison, beaucoup de petites choses très très spécifiques de la maison. Et puis à des particuliers aussi, parce que pour entrer dans ce programme, en fait, il faut avoir un projet. Donc toi, tu es particulier, tu fais un projet pour ta maison et tu vas en fait apprendre à mesurer ton espace et à l'optimiser et à préparer ton chantier. Soit tu es professionnel et tu vas suivre ce programme et le mettre en application sur le projet d'un client. Et si tu n'as pas de client et si tu veux juste tester le métier, ben, tu dois trouver ton premier client, donc gratuit pour cette étude de cas-là. Mais du coup, ça va te permettre de tester le métier en conditions réelles et d'apprendre le métier réellement, puisque tu apprends le métier sur le terrain, en fait.
Comment t'as appris tout ça, toi, si justement, c'est pas enseigné ?
Eh bien, moi, j'ai eu la chance, en fait, de pratiquer ce métier avant de l'apprendre sur les bancs de l'école. Donc j'ai fait un peu les choses à l'envers. Commencé en fait par faire les beaux-arts pendant des années. Et puis à la sortie des beaux-arts, je ne suis pas devenue artiste. J'ai travaillé en fait d'abord pour un décorateur. Et puis ensuite, j'ai été recrutée par un cuisiniste, agenceur d'espace, qui m'a vraiment permis en fait petit à petit de faire pas que de la cuisine, mais aussi la salle de bain, les dressings, les bureaux. Et puis petit à petit, toute la maison et de faire vraiment de l'architecture d'intérieur. Et quand je suis rentrée en fait à ce poste-là, bon, clairement au départ, moi je cherchais juste un gagne-pain, je venais d'avoir un bébé, il fallait absolument que je pouvais pas attendre d'être artiste reconnue pour gagner ma vie. Et puis la fin de mes études, c'était assez mal terminé, j'étais assez dégoûtée du milieu de l'art contemporain. Donc ce métier pour moi, ce job au départ, c'était vraiment un gagne-pain, mais ça a été très très dur parce que je sortais d'un milieu où l'argent est totalement tabou, donc le milieu de l'art, pour rentrer dans un milieu où on m'a expliqué que je serais payée à la commission. Donc ça veut dire que si je ne faisais pas bien mon travail avec les clients, s'ils n'achetaient pas mon projet, je n'allais pas être payée sur tout le temps que j'avais passé à concevoir leur projet. Donc là, il a fallu que j'apprenne des notions de commerce. Et heureusement, j'ai très vite compris qu'en réalité, le commerce, c'est rien d'autre que l'art de l'écoute. Donc, je me suis mise à vraiment écouter les clients pour essayer de leur faire un projet où ils se sentent mieux écoutés, mieux compris que chez n'importe quel autre concurrent cuisiniste. Et du coup, ça a marché, quoi. Ça a marché tout de suite et je me suis découverte des dons de commercial assez simplement en fait. Et du coup, je me suis vraiment passionnée pour l'habitat et pour l'optimisation d'espace. Je me suis observée vivre, j'étais très très volontaire à apprendre en fait dans ce métier-là. Et puis ça s'est fait petit à petit. Donc j'étais sans cesse en train de demander des formations complémentaires, etc. Après, on a changé de franchise. Donc j'ai appris encore des nouvelles choses. J'ai été visiter aussi des usines de fabricants de meubles, des usines de fabricants de carrelage. Ça a été hyper formateur. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, bah là, je crois que je ne peux plus rien apprendre. Et puis j'étais très fatiguée aussi. Parce que c'est un métier où il fallait travailler très tard le soir, il fallait travailler tous les samedis, voilà. Et je me suis dit, mais moi, j'adore la partie architecture d'intérieur. Par contre, je ne supporte plus de travailler pour des gens où, dans l'incertitude sans arrêt de savoir s'ils allaient m'acheter le projet ou pas. Donc, j'ai voulu apprendre l'architecture d'intérieur officiellement, en fait. Et donc, j'ai été acceptée dans une école d'architecture d'intérieur directement en dernière année, au vu des compétences que j'avais déjà acquises. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement fou, quoi, parce que j'apprenais des logiciels, j'ai appris plein de choses, les normes pour accueillir les personnes à mobilité réduite dans les établissements qui reçoivent du public, donc tout ce qui est les restaurants, les bars, les boutiques, etc. Et en fait, on apprenait très peu la maison, chose que moi, je pratiquais depuis des années. Et surtout, on n'allait jamais sur le terrain. Jamais, jamais, jamais. Et je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup de choses à mes professeurs, en fait, qui étaient architectes d'intérieur et architectes. Des choses que moi, je savais parce que j'étais sur le terrain. Et en fait, je me suis rendu compte par rapport à un architecte d'intérieur, il va avoir maximum un projet par mois, tu vois, enfin, un projet complet, quoi, qu'il va pouvoir suivre. Alors que moi, en tant que cuisiniste, j'en avais au moins 5 par mois. Des chantiers, vraiment, où c'était peut-être des petites plus petit chantier, mais par contre, c'était de A à Z. J'avais en contact les fournisseurs, j'allais sur le chantier, je prenais les mesures, j'étais en contact avec les artisans qui allaient poser la cuisine, en contact avec les clients, en contact avec tout le monde, plombiers, les électriciens, etc. Donc, j'ai énormément appris sur le terrain. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ce métier, ça prend pas du tout sur le banc de l'école. Et j'ai compris plusieurs choses. La première, c'était que, en fait, pendant tout le temps où j'étais en train de travailler chez ce cuisiniste, on avait régulièrement des clients qui arrivaient avec des plans de leur architecte déjà, pour une maison en construction ou un appartement conçu par un promoteur, etc. Et à chaque fois, je me plaignais, je me disais, mais c'est dingue, ils ne pensent pas à nous, les cuisinistes, c'est hyper mal foutu, quoi. Tu vois, on arrivait pour faire des maîtrises sur des appartements neufs, les prises, c'était aux normes, hein, il y avait toutes les prises qu'il fallait, sauf que c'était mis n'importe comment, enfin, c'était pas du tout conçu pour être ergonomique, ils n'avaient pas prévu assez de place pour ce qu'on appelle les fillers sur les côtés des meubles, entre le meuble et le mur, ils n'avaient pas prévu de place pour mettre du rangement, du plan de travail, etc. Donc techniquement, c'était aux normes, ergonomiquement parlant, il y avait zéro réflexion, quoi. Et j'en avais parlé plusieurs fois à des architectes, j'avais dit, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que je vois un plan d'architecte, c'est hyper mal foutu, quoi. Je dois tout reprendre. Et en fait, ils m'avaient expliqué Mais en fait, Maëlys, nous, en école d'architecture, sur 7 ans d'études, on ne fait pas d'architecture d'intérieur, en fait. C'est pas enseigné, en fait. Là, j'étais assez effarée. Et en réalité, en architecture d'intérieur, la maison était aussi très, très peu enseignée. Tout ce qui était les petits détails, comme l'électroménager, le carrelage, etc., que moi, je pratiquais au quotidien, et c'était pas enseigné. L'art de concevoir une cuisine ergonomique, etc., l'importance de l'entrée, tous les petits détails, c'était pas enseigné. Et puis après, le contact avec les clients et le contact avec les artisans et le terrain, le chantier, tout ça, il n'y avait pas du tout, quoi. Donc là, je me suis dit, mes collègues, là, sur les bancs de l'école, quand ils vont sortir de l'école, parce que là, on fait des projets, c'est génial, on faisait des projets de dingue, des théâtres, plages privées, des lofts avec budget zéro limite, des trucs de fou, quoi. Vraiment, on s'amusait, quoi. On était un peu sur notre nuage rose, quoi, complètement dans un nuage. Et je me suis dit, quand ils vont sortir de là, moi, le métier, le quotidien, je le connais, hein, mais quand ils vont sortir, eux, ils vont se prendre une claque. Ça va être d'une violence. Jamais ils vont trouver des projets comme ça. S'ils trouvent un projet de salle de bain pour un copain d'un voisin, ils seront tout contents, sauf qu'ils ne sauront pas le faire. Ils ne sauront pas comment parler à leurs clients, ils ne sauront pas comment parler à leurs artisans. Donc, du coup, quand je suis sortie de cette école, j'ai créé le blog Optimise mon espace pour parler de ça, de mon rapport à l'habitat, de ma vision de l'habitat, parce que justement, moi, je voyais que des blogs en fait qui parlaient de l'architecture d'intérieur uniquement en termes de décoration, de visuel. C'était des blogs d'inspiration en fait, mais on parlait pas de comment on fait pour vivre ensemble dans une maison, comment on fait pour pas se prendre la tête dans une cuisine, tu vois, comment on fait pour cohabiter, comment on fait pour que la vie soit simple en fait, pour que la maison soit à notre service et non pas qu'elle nous rendrait esclaves, en fait. Voilà. Et ça, c'était des choses qui n'étaient pas abordées et que j'ai voulu aborder, justement, au travers de ce blog, quoi. Et ça s'est fait petit à petit, un peu comme toi, avec tous tes articles. Et puis, un jour, il y a une architecte qui m'a demandé de la former. C'est comme ça qu'est né l'Atelier Home.
D'accord. Ton blog, tu l'as commencé en quelle année ?
En 2015.
Ok. Tu m'as dit que le milieu de l'art contemporain t'avait un petit peu dégoûté. Pourquoi ?
En fait, je suis rentrée aux Beaux-Arts, pour moi, c'était un peu une évidence. Bon, j'avais 19 ans, hein. J'avais besoin de m'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai fait une prépa d'abord, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait du son, j'ai fait pas mal de choses. Et puis ensuite, j'ai continué à toucher à beaucoup, beaucoup de choses pendant les Beaux-Arts. J'ai fait 7 ans en tout, une année de prépa. 5 ans de Beaux-Arts, dont la dernière année, je l'ai redoublé parce que au moment de passer mon diplôme, lors de ma première 5e année, je suis tombée enceinte. C'était un peu une surprise. Et les débuts de la grossesse étaient très compliqués. Et du coup, je n'ai pas pu passer le diplôme. Donc, j'ai repiqué et ça a été une année géniale où j'ai vraiment adoré. J'ai bossé comme une dingue. Je ne voulais surtout pas qu'on me considère comme une handicapée parce que j'étais enceinte. Du coup, j'en faisais 4 fois plus que tout le monde. Et je fais des très chouettes projets. Et en fait, c'était un milieu qui était extrêmement misogyne, avec la majorité en fait, des étudiants qui étaient des étudiants teux, peut-être un bon 60-70% d'étudiants teux, et 100% des professeurs qui étaient des enseignants sans eux. C'est-à-dire les seuls enseignants teux, c'était à des postes techniques très spécifiques, mais ceux qui enseignaient vraiment l'art, qui te jugeaient en fait, ton travail, c'était tous des hommes. Et tous, j'avais sans arrêt l'impression, si tu veux, que quand le jury arrivait, c'était à celui qui aura les plus grosses couilles, quoi. À celui qui va le plus humilier l'élève qu'il a en face, tu vois. Et évidemment, les humiliations étaient systématiquement, très majoritairement, sur les élèves femmes, quoi. Donc ça, déjà, ça a été assez dur, mais bon, j'avais un caractère assez fort, donc ça allait. Mais c'était quand même vraiment très dur, je me souviens. Mais la veille du diplôme, je me souviens que toute ma 2e, 5e année s'est passée, mais vraiment merveilleusement bien. J'avais un professeur qu'on appelait, je ne sais plus comment on appelle, enfin c'est un genre de prof principal, si tu veux, qui doit nous présenter en fait un jury externe pour le diplôme national supérieur d'expression plastique. Et donc c'est lui qui choisit les membres du jury et c'est lui qui nous présente en fait un peu comme ses poulains, quoi. Et il choisit, toi t'es diplômable, toi t'es pas diplômable. Tu vois, donc généralement, quand on est diplômable, on a peu de chances de ne pas avoir notre diplôme parce qu'il y a une espèce de présélection avant. Donc j'étais diplômable, etc. Et la veille, il passe me voir, regarder mon travail que je vais présenter. Il me dit c'est super, c'est génial et tout. Vraiment, top. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, d'autres profs passent, d'autres élèves passent, me disent tout vraiment, c'est génial, etc. Arrive le jour du diplôme, je passe le dernier jour en dernier, tu vois. Et là, la première chose que je vois, c'est le jury qui rentre et qui fait ça, tu vois. Je regarde l'heure. Je dis, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait 5 ans que je prépare ce diplôme, 6 ans même. J'ai que 3 quarts d'heure devant moi pour te présenter 6 ans de travail. Et première chose que tu fais, tu regardes ta montre. Bon, ça commence bien. Et en fait, je commence un petit peu à parler. Au bout de même pas 5 minutes, un mec me coupe la parole pour me reprendre sur un truc. Ça avait pas de sens, en fait, quoi. Ça n'avait pas de sens, en fait. C'est vraiment couper la parole pour contredire. Donc, déstabilisation comme ça. Et ensuite, ça a été tout le long comme ça. C'était très, très, très dur. Et le pire, ça a été qu'à la fin, mon prof, qui était censé me défendre, en fait, s'est mis à péter un plomb aussi et à me tailler en 4 devant le jury, quoi. À dire, oui, de toute façon, ton travail, je suis sûre que tu connais même pas tel artiste, machin, etc. Bon. Alors que c'était censé celui qui me préparait à ce diplôme, tu vois. Comme si on était en examen en cours d'année, quoi. Sauf que non, c'était le jour du diplôme. Et en fait, si tu veux, j'ai pas été la seule avec qui il a fait ça, ce mec. Ce jour-là, il a clairement pété un plomb. On était plus d'une dizaine sur une promo de 30, donc 1 sur 3, quoi, à qui ils ont refusé le diplôme, finalement. Moi, je croyais que c'était une blague. Vraiment, je croyais que c'était une blague. Et en fait, quand ça s'est passé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces gens, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais comment ça se fait, là, que je passe 6 ans à préparer un diplôme, dont, enfin, la dernière année, je mets 2 ans même à la faire, on me dit que c'est génial, que ça va bien se passer, que je vais avoir les félicitations du jury, et que sur un coup de sang comme ça, tout se retourne sur un truc qui n'est pas objectif, quoi, tu vois ? C'est un truc qui n'était pas prévisible. À aucun moment, on m'a dit, Maïlis, t'as mal travaillé, ou quoi, tu vois ? Donc, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, je peux pas continuer dans un milieu comme ça où il n'y a rien qui est fiable. La misogynie plus la non-fiabilité, je me suis dit non, je ne veux plus jamais être dans ce milieu de faux cul, quoi. Voilà.
C'est un pouvoir incroyable qu'ils ont, puisqu'en quelques minutes, ils peuvent te détruire 6 ans de travail, comme tu dis.
Ouais, c'est ça, en quelques minutes. Et sans avoir aucune conscience de l'impact que ça a. Parce que quand ils me l'ont dit, moi, je croyais vraiment que c'était une blague, parce que pour moi, c'était juste pas possible. En plus, j'avais passé 2 ans. J'avais redoublé déjà. Mais comment ça... Mais qu'est-ce que je vais faire ? Il me dit, tu vas redoubler. Je dis, j'ai déjà redoublé. Ah oui ? Ah tu vas tripler. Mais j'ai pas que ça à foutre, mec, tu vois ? Je suis partie vraiment en claquant la porte. J'ai dit, plus jamais, quoi. Plus jamais, je veux évoluer dans ce métier. Plus jamais, j'ai envie de voir leur sucer les bites, quoi, tu vois ? Leur lécher les pieds, les bottes, quoi, tu vois, c'est... Non, je rentre pas dans ce jeu-là, je vais tracer ma route. Et tu vois, c'est tellement impalpable ce qui me plaît dans l'architecture d'intérieur, c'est que tu as ce côté artistique, créatif, mais c'est au service de quelque chose que tu palpes, que tu comprends, tu vois. Tu le ressens vraiment, l'impact, quand on travaille la couleur, les matières en architecture d'intérieur... On le ressent tout de suite, l'impact que ça a sur nous par rapport à une œuvre d'art où soit on a vraiment cette sensibilité à la comprendre ou soit on l'a pas du tout et on la comprend pas, mais il faut quand même des clés. Alors que l'architecture d'intérieur, même sans avoir les clés, tu peux ressentir les choses, tu vois. Tu rentres dans une pièce, t'es bien ou t'es pas bien.
Justement, par curiosité, le thème donc, pour ton diplôme, t'avais présenté quoi ?
J'avais travaillé sur plusieurs choses. Pendant ma dernière année, comme j'étais enceinte, j'avais travaillé sur les annonciations, donc l'annonciation donc de l'ange Gabriel qui annonce à la Vierge Marie qu'elle est enceinte, quoi. J'avais fait tout un travail là-dessus sur les annonciations du Quattrocento, de la Renaissance italienne, que j'avais transposé en mode art contemporain. Ça avait été une pièce qui avait énormément plu, ça, d'ailleurs. Et puis, j'avais aussi fait, effectivement, toute une série des grandes toiles de testicules que j'avais appelées les Holy Balls. J'avais dit que c'était les couilles de Dieu.
Les couilles bénies, non ? Les couilles, voilà. Les couilles de Dieu.
C'est les couilles de Dieu. Les Holy Balls, ouais. C'était parti d'un truc de fou. C'était ma tante à Noël qui m'avait offert un livre qui s'appelait Testicules. C'est toute une thèse sur les testicules, écrite par une femme d'ailleurs, mais qui connaissait vraiment bien le sujet. Et du coup, je m'étais mis à peindre des testicules géantes que j'avais appelées les Holy Balls.
J'ai bien fait de te poser la question quand même.
Et j'avais fait aussi, le jour du diplôme, une grande machine à décapiter la peinture. Et j'avais fait comme un très grand échafaud en palettes. Tu sais, les palettes de marché que j'avais récupérées dans la rue. Et j'avais monté tout ça en un grand estrade et j'avais fait une grande guillotine avec, pour la guillotine, en fait, c'était des grands couteaux de peintre pour peindre, en fait, pour les peintres, pour quand c'est des trucs très, très épais, des enduits épais, on va utiliser ce qu'on appelle des couteaux. D'accord. Mais il y en a, en fait, il existe des grands comme ça, tu vois. Donc, je les avais alignés les uns avec les autres pour faire comme une guillotine, en fait. Et j'avais pris mes toiles que j'avais fait pendant l'année, je les avais enduites d'un produit qui pue un peu la peinture. Et j'avais passé sous cette guillotine pour racler, pour enlever en fait tout ce que j'avais peint sur la toile, quoi. Donc il y avait ça entre autres, et puis il y avait plusieurs autres choses, quoi.
Oui, donc là il faut expliquer après toute l'histoire de la guillotine pour comprendre, et c'est ce que tu disais par rapport à l'architecture d'intérieur où le commun des mortels peut comprendre parce que c'est des sensations directes, alors que l'art contemporain, il faut toujours connaître l'histoire avant de comprendre.
Ouais. Mais il faut être aussi en mode sensible. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué que d'une humeur à l'autre, en fonction de l'humeur du jour, je peux être très sensible à une œuvre ou totalement insensible.
Il y a aussi une question de cycle chez nous, hein.
Ouais.
Je ne sais pas si les hommes, ça leur fait pareil.
Ben, je pense quand même que les hommes aussi, parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça avait énormément joué le fait que j'étais passée le dernier jour, parce qu'ils étaient déjà énervés, fatigués, qu'ils avaient envie de rentrer chez eux, qu'ils avaient un train, etc. Et du coup, toutes mes histoires, là, ça allait juste... Dès le départ, c'était mal parti, tu vois. Ils n'avaient pas envie de m'écouter. Et du coup, après, voilà, c'était assez dingue, quoi. J'étais en mode, bon, je vais essayer d'expliquer quand même mon travail. Mais je sentais qu'il n'y avait pas de réception, alors que la veille, j'avais présenté la même chose à tous mes profs, qui disaient, c'est génial et tout, tu vois.
Comment t'as rebondi après ça ?
Comment j'ai rebondi juste après ? Alors, j'avais un bébé que j'avais appelé Oscar, qui s'appelle toujours Oscar.
Ah oui, tu m'as fait peur.
Et du coup, je me suis dit, de toute façon, diplôme ou pas diplôme, moi, cette année, j'ai eu un Oscar. Voilà. Et Oscar, il est né aux Beaux-Arts, en fait, hein, Oscar. Quand j'étais enceinte, je peignais. Quand il est né, j'ai continué de peindre. Je me souviens d'allaiter en continuant de peindre. Enfin, j'ai travaillé comme une malade cette année-là. Je me souviens d'avoir fait un exposé sur les annonciations de la Renaissance italienne, alors qu'Oscar, il n'avait même pas 15 jours. Il était sur mes genoux. Moi, j'étais dans l'amphithéâtre. Personne ne m'écoutait. Tout le monde voulait regarder mon bébé. Et donc, en fait, il est né dans ses odeurs de peinture à l'huile, etc. Et aujourd'hui, Oscar, c'est marrant parce que c'est un vrai artiste. Il dessine énormément, c'est un grand bricoleur, etc.
Il a quel âge ?
Ben, il va avoir 13 ans, là. Et alors, comme par hasard, Oscar, dans cette histoire d'annonciation, il est né à 2h du matin, le 26 décembre. C'est-à-dire qu'à 2h près, il était né le jour de Noël. Donc c'était assez dingue.
Et toi justement, alors tu parles de la sensibilité artistique de ton fils qui a baigné là-dedans, je voulais revenir en arrière, tu as cette sensibilité artistique, tu as cette capacité à rebondir, cette résilience, et en même temps aujourd'hui tu es chef d'entreprise, donc tu as pu t'improviser chef d'entreprise, alors que finalement quand on commence les Beaux-Arts, c'est pas ce à quoi on pense.
Ah,
aujourd'hui tu gères une équipe, donc tu as tout ce volet administratif, management, plus pédagogie, plus, enfin énormément, ouais, de choses à gérer.
Énormément.
Donc, j'ai envie de te demander quelle était ton enfance, que faisaient tes parents et qui était la petite Maëlys ?
Ouh là là ! Alors moi, j'ai pas du tout des parents entrepreneurs. J'ai un papa ingénieur travaux publics, un bon diplômé bien comme il faut, qui a fait une très bonne carrière, très très sage.
T'as grandi où ?
Alors mes premières années, j'étais en Afrique justement parce que mon papa avait travaillé pour une entreprise française qui faisait des chantiers en Algérie et au Cameroun. Mes tout premiers mois, j'étais en Algérie, mais j'en ai aucun souvenir. Et ensuite, au Cameroun, jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc là, je me souviens de ma première maison au Cameroun, effectivement, où c'est là où j'ai appris à marcher, à parler, voilà, à me doucher sous la pluie tiède, dans le patio. Donc j'ai des souvenirs assez flous, mais très empreints, de très, très, très émouvants. Voilà. Et après, j'ai grandi au Pays Basque essentiellement. Puisqu'on est revenu, mes parents avaient acheté une maison au Pays Basque et mon père a trouvé un emploi au Pays Basque, d'abord pour des autoroutes, et puis après, bon, je te passe tout le détail de sa carrière, mais finalement, il a été embauché en CDI à la mairie de Biarritz. Et voilà, donc j'ai grandi au Pays Basque, en fait, essentiellement.
Et ta maman ?
Et ma maman s'est consacrée à sa famille, a fait le métier le plus compliqué au monde, qui est mère au foyer. Et toute mon enfance, j'ai entendu ma mère nous dire « Ne faites jamais ça ! C'est le métier le plus ingrat du monde !» Et je peux te dire que c'est rentré dans notre tête, et on est 4 filles, et je suis la seconde. Aucune de nous n'est mère au foyer, ça c'est sûr.
Toi, t'avais déjà une sensibilité à l'art, petite ? Tes parents t'ont sensibilisée ?
Pas vraiment, non. Ma mère nous a amenés un petit peu dans des musées, mais c'était très, très, très classique. Elle aimait les tableaux très classiques. J'aimais pas du tout ce qu'aimaient mes parents. Par écouter de la musique classique, etc. Adolescente, je me reconnaissais pas du tout. J'aimais pas du tout la maison dans laquelle j'habitais. Je me sentais pas chez moi. C'était une maison avec des vieux meubles, des vieux tableaux. J'étais pas à l'aise dans cette maison. Et en fait, c'est rigolo parce que je pense que j'ai compris qu'il y avait cette maison avec un impact énorme en fait sur nous, sur notre capacité à vivre ensemble, etc. On vivait dans des meubles qui n'étaient pas les nôtres en fait, qui étaient ceux des ancêtres de ma mère. J'aime aujourd'hui aller dans cette maison, pas pour la maison, pour le jardin. Et c'est mon père qui l'a fait le jardin. Et il y a une vue magnifique, etc. Et puis j'aime aller là-bas parce que j'adore le Pays Basque. Et puis il y a une atmosphère finalement dans cette maison et dans ce jardin que... Aujourd'hui, c'est une maison très, très différente parce qu'on a des souvenirs différents avec maintenant qu'on a des enfants. Mes sœurs et moi, on construit d'autres choses, en fait. Donc, c'est là qu'on voit que vraiment, les habitants d'une maison ont un impact énorme, en fait, sur la maison et vice-versa, en fait, finalement.
Et toi, il me semble qu'au lancement de ton blog, les premières années, tu as fait un tour du monde.
Ouais. Quand j'ai démarré le blog, on m'avait dit, il faut que tu te mettes un challenge, tu te mets une carotte, quoi, un truc. Moi, je me t'ai dit, je veux faire un voyage au Canada, traverser le Canada en camping-car. Et puis, au bout de 3 mois, en fait, le blog a pris tout de suite. C'était complètement dingue. J'ai pu publier 2 articles, le truc, tout de suite, j'ai eu du boulot. Les gens ont lu, ont partagé mes articles, j'ai eu des demandes de prestations, alors qu'à aucun moment sur mon blog, il y a eu un onglet prestations, mes tarifs, quoi que ce soit. Jamais j'ai vendu mon travail. Je faisais que dire, ben voilà, je suis architecte d'intérieur et voici ma vision de l'habitat. Et en fait, en lisant mes articles, les habitants se reconnaissaient, avaient l'impression, ah, enfin, on en parle de ça. Ah, bon, ben, j'aimerais bien que vous travailliez sur mon projet de maison, etc. Et souvent, des gens qui me disaient, j'ai déjà fait appel à une architecte, mais elle ne m'a pas comprise. Voilà. Et du coup, des gens qui me faisaient des demandes alors qu'ils n'étaient pas du tout dans ma ville. Moi, j'étais sur Nice à l'époque. Et du coup, j'ai dû apprendre à travailler à distance, etc. Donc, j'ai lancé le blog fin 2015 et au mois de janvier 2016, au moment où on fait les bonnes résolutions, tu sais, il dit... En fait, le voyage au Canada, ça va être fingers in the nose, quoi. Et je vois une vidéo sur YouTube d'une nana qui dit qu'elle a fait un tour du monde en famille. Et là, je regarde mon mari, je fais, c'est ça qu'on va faire. Et là, il me dit, tu viens à peine de créer ton entreprise. Qu'est-ce que tu me parles de tour du monde, là, de partir faire un tour du monde, n'importe quoi. Et il n'en fallait pas plus pour me motiver à ce qu'on le fasse vraiment. Un mois après, on s'asseyait vraiment là en face de l'autre. Bon, alors, est-ce qu'on le fait? Comment on peut le faire? Qu'est-ce qui pourrait nous en empêcher? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir le faire? Et là, en fait, ça débloquait tout un tas de projets qu'on procrastinait depuis super longtemps. C'est-à-dire que mon mari voulait quitter son boulot. Ça a été l'occasion. Il voulait se former avant à l'horlogerie qu'il pratiquait déjà en autodidacte. Depuis des années, il voulait un CAP, hop, il fallait le faire avant de partir. On voulait tester l'école en famille, c'était l'occasion. On voulait vendre notre appartement, c'était l'occasion parce qu'il n'y avait pas d'autre solution de toute façon pour pouvoir partir. On voulait déménager à Bordeaux, mais on ne savait jamais quand, etc. On s'est dit, une fois qu'on aura tout vendu sur Nice, qu'on aura quitté nos boulots, etc., on n'aura pas de raison de revenir à Nice. Donc ce sera l'occasion, ce tour du monde-là, de partir à Bordeaux. Et en fait, tout s'est débloqué comme ça et on a fait tout étape par étape. J'ai mis tous mes services en ligne. J'ai lancé l'atelier Home, donc cette formation en ligne. On a tout fait. Stéphane, il a trouvé son CAP, il a été reçu, il l'a eu, etc. Il a quitté son entreprise. Enfin, tout s'est enchaîné en moins de 18 mois et on est parti.
Alors l'itinéraire ?
On n'est pas allé en Nouvelle-Calédonie. On a démarré par la Tunisie. C'était facile parce que c'était facile entre guillemets. Ma petite sœur a un mari tunisien, franco-tunisien, donc ils n'habitaient pas en Tunisie à l'époque. Ils habitaient en France, mais c'était l'occasion pour eux d'y aller et puis de nous faire visiter. Donc on a démarré le voyage en fait avec eux comme ça pendant pendant deux semaines. Ensuite, on est allé à l'opposé, on est allé au Canada. Et alors, passer de la Tunisie au Canada, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Et ce qui est très, très drôle, c'est que je me suis rendu compte que les humains, la personnalité, la mentalité, la société, en fait, la façon de s'habiller, est totalement parallèle à l'architecture. C'est-à-dire, en Tunisie, tu vois, tu verras pas une femme qui montre ses genoux, quoi. Ça n'existe pas. Enfin, moi, des Tunisiennes m'ont dit, mais si, à Tunis, il y en a. Moi, j'en ai pas vu. Donc, on est quand même très... voilà, on montre pas trop son corps, etc. Et puis, beaucoup de femmes voilées. Et en fait... l'architecture, c'est un peu ce que j'appelle un peu une architecture introvertie, l'architecture traditionnelle tunisienne en tout cas.
Pudique.
Les maisons n'ont pas de fenêtres vers l'extérieur, tout est vers l'intérieur, l'extérieur est à l'intérieur, le jardin est à l'intérieur, le patio, toutes les pièces donnent vers l'intérieur. Et il ne faut pas qu'il y ait des fenêtres qui donnent vers l'extérieur, il y a zéro vis-à-vis, etc. On se cache, en fait. On se cache autant à travers nos habits qu'à travers la façon dont on ne va pas se dévoiler comme ça, et on ne va pas non plus se dévoiler à travers notre architecture, nos maisons. Tu passes au Canada, tu vois des nanas en mini-jupe, mais tu vois pas en mini-jupe, en mini-short avec la ligne du short au-dessus des fesses, tu sais, tu vois les fesses qui descendent. Genre, c'est normal. Il y en a plein, mais personne ne les regarde. C'est pas un truc genre choquant là-bas, quoi. Et personne ne se regarde dans la rue. Tu sens vraiment qu'il n'y a pas de regard. Les gens ne se regardent pas. Et les immeubles, tout vitré. Ils cherchent beaucoup à faire rentrer la lumière à l'intérieur de leur maison. Beaucoup de fenêtres, de grandes fenêtres, etc. Et ils se foutent complètement qu'on voit ce qu'il y a chez eux. C'est rigolo, parce que j'en ai parlé avec des habitants et des architectes québécois qui me disaient « Ah oui, c'est vrai, vous les Français, avec le vis-à-vis, mais nous, on s'en fout du vis-à-vis, c'est une notion qui n'existe pas. Oui, on a des voisins qui, oui, ils sont là, ils vivent dans leur salon, et alors, on les voit, mais on ne les regarde pas. On s'en fout, on ne se regarde pas, tu vois. » Et ils me disaient « Ouais, c'est vrai, quand j'ai fait mes études à Lyon, j'ai remarqué, à 18h, l'hiver, tout le monde ferme ses volets, c'est bizarre. » Là-bas, ils n'ont pas de volets, ils n'ont pas de contrevent, tu vois. C'est vraiment marrant comme l'architecture reflète totalement la personnalité qui est incluse, qui est induite en fait par la société dans laquelle on vit en fait.
Moi, je me souviens pour le coup au Japon, la nuit quand je prenais l'équivalent du RER, je voyais ces petites... J'essayais de voir... C'est peut-être parce que les Français, on essaie de regarder chez les gens. C'est ouais. Ça la différence, c'est pour ça que le vis-à-vis existe.
C'est ça.
C'est parce que nous, on essaie de regarder. Mais oui, la nuit, quand tu voyages, tu essaies de regarder ce qui se passe chez les gens par curiosité.
Ah, mais moi, j'adore. Moi, quand j'étais petite, je me souviens de passer des heures à la fenêtre, à regarder, tu vois. Parce qu'en face, on avait un fronton pour jouer à la pelote basque. Donc, il y avait des gens qui venaient, il y avait des gens qui venaient pour jouer à la pelote, d'autres, il y avait des jeunes qui venaient juste pour s'asseoir, pour discuter. Je passais des heures à la fenêtre. Ma mère, elle arrivait, elle ouvrait. « Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas tes devoirs ?»
Oui, c'est mal vu en plus. Alors, Tunisie, Canada, après, t'as fait... Vous êtes allé où?
Les États-Unis, de Chicago jusqu'à San Francisco en train. Incroyable. Avec un train, tu le connais ce train qui s'appelle le California Super Train. Ah, il est magnifique, incroyable. Avec un wagon panoramique au milieu, c'est une expérience vraiment que je conseille à tout le monde de faire. Rien à voir avec la SNCF. Tu sais, c'est un voyage. Les gens se parlent. Les gens se rencontrent, les gens se racontent pourquoi ils font ce voyage. Tu traverses des paysages comme des cartes postales vivantes. Tu passes d'hiver en été. Enfin, c'est incroyable. Les États-Unis, c'est magnifique, en fait. C'est vraiment des paysages incroyablement beaux, quoi. Je me dis, les gens qui ont découvert ce pays à l'époque, ils ont dû halluciner, quoi. À un moment donné, il s'est neigé. On était, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? On est parti en automne, on est là en hiver, on est arrivé à San Francisco, c'était l'été. C'était fou. C'était vraiment des paysages incroyables. Puis,
vous avez fait ce voyage à 4?
À 4, ouais, avec donc Oscar qui avait 9 à 10 ans et Anouk qui avait 4-5 ans.
D'accord. Alors après, donc tu descends après, la Californie, Mexique.
Au Mexique. Voilà. Puis au Pérou, et on est monté sur le Machu Picchu pour les 10 ans d'Oscar. Voilà, c'est incroyable aussi. Et puis on est remonté un petit peu au Costa Rica, puis on est parti en Asie après, en passant une petite halte Qatar, mais de de juste 2 jours, quoi, le temps que l'avion se pose. Et puis ensuite, donc, quand on a débarqué en Thaïlande, on n'est pas vraiment resté en Thaïlande, on est parti ensuite au Cambodge, au Laos, voilà, et puis ensuite au Vietnam, à Hong Kong et aux Philippines, puis au Japon. Et on est revenu en Europe par la Géorgie. Alors là, c'était fou. Passer de Tokyo à Tbilissi en Géorgie aussi, c'est complètement incroyable, quoi. Tu passes du monde complètement futuriste, des robots, à un monde en Géorgie où je me suis dit, oh, c'est la vieille Europe. J'ai vécu des trucs où je me suis dit, ah, oh, c'est comme ça qu'ils vivaient nos ancêtres. C'était incroyable. Oui. J'ai vu dans un petit village de montagne, quoi. On était hébergés chez l'habitant. Et à un moment donné, la femme, elle a eu besoin de lait. Elle est sortie, elle a trait une vache. Elle est revenue avec son lait, quoi. Tu vois ? Et il y avait juste une vache, là, devant la maison. Enfin, c'était juste incroyable. C'était pas genre la ferme, la grosse ferme avec les vaches, tu branches, tu vois. Rien à voir, tu vois. Il y avait une vache qui était là, tu vois. Bonne lait, elle faisait son propre yaourt et tout. C'était fou. Une autre vie, quoi. Une vie tout en douceur, tout en lenteur et en même temps qui est belle aussi, quoi. Tu vois ? Très proche de la nature. Rien qui est robotisé, rien de... Pas de téléphone, très peu, pas d'ordinateur dans la maison, à peine l'électricité, pas de télé.
Ça t'a apporté quoi, tous ces voyages ?
Moi, j'ai toujours dit que je voulais voyager avant tout pour rencontrer des humains. Les cartes postales, je pouvais rester en France pour ça. J'étais pas à la recherche de cartes postales, mais c'est vrai qu'on a une terre absolument incroyable. Et moi, ouais, ça m'a apporté de me rendre compte qu'en fait, l'humain est vraiment génial, à tous ceux qui en doutent, quoi. Tu vois, quand tu regardes les réseaux sociaux, tu te dis, putain, les gens, c'est tous des cons, c'est tous des méchants, la société a la mauvaise haleine, tu vois. En fait, non, les humains sont géniaux. Enfin, j'ai vécu des trucs de dingue, les gens, ils nous invitaient chez eux et tout. Enfin, c'est fou. Et il suffit de demander, en fait. Il suffit de demander. C'est quand même incroyable, quoi. Moi, sur Facebook, je disais, ouais, alors voilà, demain, on arrive au Pérou, on ne sait pas où est-ce qu'on va loger, mais j'aimerais bien rencontrer des architectes, des gens qui fabriquent des maisons, des voilà, si vous avez des contacts. Et là, je recevrais des amis d'amis qui taguaient, qui machin, des gens qui m'ont hyper bien reçu. J'ai traversé le Pérou pour aller visiter des chantiers de maisons en bambou. Le mec, il m'a... Enfin, c'était incroyable, c'était incroyable. On arrive au Vietnam aussi... Premier jour, on sort dans les rues d'Hanoï. Tu passes du Laos au Vietnam, là aussi, c'est incroyable. Laos, tu vois, les gens sont très lents, très calmes, très posés. Il ne faut pas pousser, tu vois. Et tu vois, passes au Vietnam, et oh, c'est hyper speed, les gens sont comme des fourmis. Les gens sont tous très affairés, très occupés. Mais par contre, il n'y a pas de mendiants, par exemple, dans les rues. Tu vois, quelqu'un qui...
Ils n'ont pas le temps.
Il va pas mendier, il va te vendre des allumettes, te cirer les chaussures, mais n'importe quoi, mais il va te vendre quelque chose, quoi, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que les gens vivent dans la rue, vraiment, au Vietnam. Ils ont des maisons, mais leur salon, c'est le trottoir. Ils ont des boutiques, mais en fait, ils se servent de leur boutique comme arrière-boutique et ils mettent tout sur le trottoir, tu vois. Donc, quand t'es piéton, c'est très compliqué. Mais les gens se reçoivent pas vraiment chez eux, ils se reçoivent vraiment sur le trottoir, c'est rigolo. Et donc, on passe devant, dans la rue, comme ça, et on voit des gens qui sont en train de boire le thé dehors, devant... C'est un garagiste, quoi, qui buvait le thé. Et on les a regardés peut-être 2 secondes, 3 secondes, tu vois. Et ils nous regardent comme ça. Et ils nous invitent à boire le thé. C'est incroyable, quoi. C'est des trucs... Et alors, tu peux te dire, ouais, en France, ça se passerait pas comme ça. Les Français sont tous des cons. Mais non, c'est pas vrai. Si tu demandes aussi, puis si t'as des étrangers qui viennent chez toi, qui te demandent l'accueil, je suis sûre que tu vas les accueillir aussi, parce que c'est amusant aussi, tu vois, d'accueillir des gens qui t'apportent quelque chose. Voilà. Vraiment, le voyage, ça m'a apporté ça, quoi. Ça m'a apporté de réaliser à quel point l'humain peut être vraiment génial. Et ouais, le sens de l'hospitalité, d'être curieux de l'autre, c'est ça qui fait qu'on est... On est là pour cohabiter, en fait. La mission de l'entreprise Optimise mon espace, c'est faire cohabiter en harmonie les locataires de notre terre. Et ça, je le fais au travers d'une architecture d'intérieur pertinente. Mais c'est vraiment ça qu'on fait au quotidien dans notre pratique de l'architecture d'intérieur. C'est comment on fait pour habiter adultes et enfants. On n'a pas la même taille, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes besoins. Voilà, comment on fait pour cohabiter ensemble ? Au fait, on est un foyer, mais on est des individus avant. On est un couple, mais on est 2 individus en fait. On n'est pas juste un couple. C'est ça qui m'intéresse, parce que quand on sait déjà cohabiter dans la maison, bah, peut-être qu'on peut apprendre à cohabiter dans le plus grand. Et quand on est bien chez soi, on peut être bien dehors. Et il faut d'abord être bien avec soi pour être bien avec les autres, quoi. C'est des choses qu'on devrait tous apprendre depuis tout petit, en fait. Bah, c'est le premier lieu d'éducation de l'enfant aussi, la maison. Et l'enfant, c'est rien d'autre qu'un adulte en devenir.
Toi, tu as osé, donc plusieurs fois, comme on peut le voir dans ta vie. C'est quoi pour toi la définition d'oser ?
Ah, c'est beau cette question. Je crois que mon premier mentor, enfin quand j'ai lancé mon entreprise en fait, un jour il m'a dit « Aie peur, ressens cette peur et va au-delà de cette peur ». Et cette phrase, je m'en souviendrai toujours. Je crois que c'est ça, oser. Oser, c'est pas ne pas avoir peur. C'est avoir peur, c'est vraiment écouter cette peur et se dire « Ok, j'y vais au-delà, j'y vais ». Et en fait, tout ce que j'ai pu oser, vraiment, je peux arriver à la conclusion que de nos plus grandes peurs naissent les plus grands accomplissements, les plus grands projets, quoi, les plus belles choses. Donc c'est bien d'avoir peur, en fait.
Pour toi, un exemple ou quelques exemples de femmes qui osent et qui te viennent à l'esprit, voilà, quand tu entends celles qui osent, tu penses à qui ?
Aïe, 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 j'ai pas préparé cette question.
Justement, c'est comme ça que ça va être spontané.
Ben, toi ?
Et oui, parce que j'ai le nom, celle qui ose, mais ouais. Donc forcément,
non,
c'est l'image qui vient.
Non, mais toi, Lucie Rondelet, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui ose énormément, qui a un caractère, une force de la nature pour moi, vraiment. J'ai vu traverser des trucs au niveau perso hyper lourds et continuer de foncer sur ton plan professionnel, là où n'importe qui aurait été totalement submergé. Toi, tête baissée. Un taureau, quoi. Un bélier. J'adore.
Oui, mais c'est pas la définition d'oser. J'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai pas pu ressentir. J'ai pas osé. J'étais obligée. Tu vois, j'étais dos au mur. Mmh. Alors, moi, je dirais pas que je suis de celles qui... Enfin...
Si, si. Je pense que t'en es. T'étais obligée. Oui, mais non. En fait, t'aurais pu te dire, c'est la fatalité. Je suis malheureuse. Je tombe en dépression. T'aurais pu faire ça, ce choix-là aussi. Qui aurait été peut-être plus confortable. En fait, t'as osé dire non à ça, quoi. Et t'as osé dire non aux personnes qui te respectaient pas, aussi. Mm-hmm. Non, t'as osé prendre ton indépendance et t'as osé réussir, quoi. T'as osé être ambitieuse, quoi. T'es quelqu'un d'hyper ambitieuse. J'adore ça. Celle qui ose, c'est aussi... Pour moi, c'est toutes les femmes que j'accompagne au sein du programme Homer Pro. Parce que tu sais, dans les programmes que je propose, il y a l'atelier Home dont je t'ai parlé au départ, là, qui est vraiment le premier programme pour apprendre vraiment la méthodologie qui fait que ton projet, il va réussir. Tu vas avoir 100% de satisfaction client. Et après, tu as le deuxième programme Homer Ninja pour être vraiment certifié Homer, spécialiste de l'optimisation d'espace dans l'habitat. Et enfin, le troisième palier, c'est Homer Pro pour vraiment réussir à vivre de sa passion, développer son entreprise, etc. Il faut passer par les deux premières étapes pour aller à la troisième. Mais celle qui ose, c'est vraiment celle qui arrive au programme Homer Pro, parce que je peux te dire qu'il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes dans ce programme, alors qu'il y a aussi des hommes dans l'atelier Home. Mais c'est marrant, c'est un accompagnement entrepreneurial. Et moi, je dis toujours, non, mais les hommes n'ont pas besoin d'Homer Pro. Les hommes n'ont pas besoin d'aide. Et celle qui ose, c'est celle qui ose demander de l'aide aussi, tu vois. C'est celle qui ose être accompagnée. Il y a des architectes dans l'atelier Home, il n'y a que des femmes architectes. Des femmes architectes qui disent, bah oui, je suis allée à l'école, effectivement. Oui, j'ai fait ce métier pendant des années, mais je vais apprendre auprès de Maïlis, qui était cuisiniste et architecte d'intérieur, mais qui est sur le papier... est moins diplômée que moi, qui en fait a une expérience terrain qui peut vraiment me servir et qui a une méthodologie hyper structurée qui va me servir, quoi.
Ouais, ça m'arrive d'avoir des élèves de mon côté qui sont excellents et où du coup je me sens un petit peu mal à l'aise, et puis après je pense à Laure Manaudou et je me dis finalement elle est plus connue que l'entraîneur, mais nous on est des entraîneurs, on n'a pas... À rougir quand on voit des personnes, parce que peut-être que toi tu vas avoir ou tu as déjà eu des élèves qui ont explosé dans leur notoriété ou qui ont fait des choses extraordinaires, et là tu te dis bon, bah, c'est moi qui l'ai formé, voilà, on est des coachs.
C'est quelque chose de fou, ça, je trouve, de voir c'est ça que j'adore dans mon métier, et que ça me fait toujours une émotion incroyable, c'est de voir rentrer des élèves comme ça dans le programme Homer Pro qui sont toutes petites et qui explosent après, tu vois s'épanouir et briller après parce qu'elles osent, en fait. Et moi, dès le premier jour dans le programme, je leur dis, tu vas sortir de ta zone de confort et on va commencer dès le départ. Je te demande de faire une vidéo pour te présenter au groupe. Je dis, mais ça, c'est juste la toute première étape. Hein. Et puis, en fait, je leur demande comme ça, crescendo, de plus en plus de choses. Et c'est très, très beau de les voir se révéler comme ça et devenir vraiment des références dans le milieu de l'architecture d'intérieur, chacune avec sa spécialité, avec toujours les mêmes valeurs fondamentales de Home, qui sont le sur-mesure, le durable, le rentable et le partage. Donc ça, c'est vraiment nos valeurs communes. Mais chacune va vraiment plus ou moins appuyer sur un pilier écologie, rentabilité, sur-mesure. Et en fait, oui, chacune a vraiment des ambitions différentes, a une personnalité différente et on va vraiment aller rechercher là, cette personnalité, cette spécialité-là. Ce sont des femmes qui osent, clairement. Bah ouais, j'ai envie de dire, j'ai envie de parler, de rendre hommage à mes élèves dans celles qui osent.
Et j'en profite pour ressortir une phrase, mais que j'ai gardée en tête de toi quand je t'ai rencontrée l'année dernière à Bruxelles. On discutait de nos différents projets et surtout beaucoup de l'infopreneuriat qui est un monde quand même globalement très masculin et avec justement une, je sais pas si on peut parler de valeur, mais une manière de faire et de communiquer et de vendre qui est très différente globalement de la nôtre, surtout quand on se retrouve entre femmes infopreneurs, où nous, on vise la satisfaction et la réussite de nos clients, donc nos clients, nos élèves, tandis que beaucoup d'autres, pas tous évidemment, mais visent les ventes et ensuite, une fois que c'est vendu, ils s'en fichent un petit peu. Et tu m'avais dit cette phrase, les hommes n'ont aucun scrupule à être incompétents. Et ça m'avait fait rire, tu t'en souviens ?
Oui.
Et là, quand tu me parles d'Homer, j'y ai pensé parce que tu me dis Homer Pro, c'est que des femmes, les autres, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Et d'ailleurs, dans les études, souvent, on retrouve plus de femmes qui s'investissent plus. De manière générale, les femmes ont plus de syndrome de l'imposteur, je pense.
Oui, on doit en faire toujours deux fois plus qu'un homme pour prouver qu'on est, on est à sa place, etc. Si ce n'est trois ou quatre ou cinq fois plus, quoi. Donc, oui, clairement.
On est nombreuses à beaucoup, beaucoup travailler dans l'infopreneuriat, ouais. Dans la création de produits en ligne. Et j'ai plusieurs amis infopreneurs qui m'ont dit, ah ben moi, mon mari, mon compagnon ou autre m'a dit, mais pourquoi tu continues alors que tu pourrais tout vendre et aller boire des mojitos, en gros. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi, alors qu'on gagne très bien notre vie, par exemple, on continue à travailler. C'est quelque chose qui dépasse beaucoup de...
Complètement. Chez les infopreneurs, quand tu vas voir des infopreneurs mâles discuter entre eux, ils vont discuter de combien tu pèses, combien tu as fait de chiffre d'affaires cette année. Et ils vont s'évaluer par rapport à ce truc-là. Et c'est quelque chose qui me parle énormément par rapport à ce que j'ai vécu au Beaux-Arts, où il y avait vraiment sans arrêt cette évaluation de la taille de ta bite, quoi. Un groupe de femmes entre elles vont beaucoup plus discuter de « et comment tu fais, toi, pour que tes élèves y réussissent ?»« Et comment tu as structuré ton programme ?»« Et comment tu gères ta trésorerie ?» ou voilà. Mais c'est plus du vraiment des questions très concrètes, en fait. « Et comment tu fais pour vivre ça tout en ayant des enfants et machin et tout ça ?» Mais le chiffre d'affaires, finalement, c'est secondaire, en fait. C'est marrant parce que je me rends compte en plus que moi, je ressens le besoin de parler de mon chiffre d'affaires, entre guillemets, que quand je parle à un homme. Je vais dire pour qu'il m'accorde de la crédibilité, tu vois.
Voilà. Exactement.
Je vais poser mon chiffre d'affaires là, voilà, c'est bon, tu peux m'écouter maintenant, tu vois. Oui, c'est ça. Et en fait, en vrai, je m'en fous complètement, quoi, tu vois. Quand j'ai vu mon CA en fin d'année, j'ai fait tout ça. Je m'en étais pas rendu compte, quoi, tu vois. Mais même hier, j'étais en ligne avec ma comptable, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce chiffre que vous avez mis là ? Elle me dit, bah, c'est les sous que vous avez sur les comptes en banque de la société, quand on additionne tout ça. Mais je m'en fous complètement, en fait. Toute mon énergie, elle va être à continuer de développer la qualité du programme, l'améliorer, etc. Avoir des élèves qui soient contents. Moi, j'adore quand dans le groupe, les élèves disent « Ah, c'est génial, il y a encore ça en plus. Oh, vous êtes super, super équipe et tout. » Et moi, je me nourris de ça. Je me nourris des élèves qui sont contents, qui nous envoient des petits mots d'amour et tout ça. C'est ça qui me nourrit. C'est pas combien il y a de zéros, tu vois.
Nous, dans notre groupe Slack de mon équipe sur mon autre projet, puisque là, on est sur celle qui ose, mais sur mon formation rédaction web, on a un hashtag du love et on partage tous les messages d'amour qu'on reçoit et on n'a pas de hashtag chiffre d'affaires ni objectif du mois. D'ailleurs, dans les réunions d'équipe, j'ai réalisé, j'en ai fait une il y a quelques jours, que je n'ai jamais parlé de chiffres.
Ah ouais. Alors, nous, on en parle avec, avec mon équipe, avec juste les, mes deux bras droits. Par contre, oui, dans la chaîne Slack, on a une chaîne Time to Celebrate aussi, où on met...
Ah oui.
On met nos petits messages d'amour, qu'on reçoit des élèves, on adore.
Ouais, ouais. Avec tout le monde qui met des cœurs. Alors, je vais te poser une dernière question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as une œuvre, ça peut être n'importe quoi, une musique, un tableau, un film, une série, n'importe quoi, qui t'a touché, vraiment touché récemment ?
Récemment ?
Ou dans ta vie ?
Je sais pas pourquoi, du tout, mais quand tu m'as posé cette question... J'ai pensé au bleu de Klein. J'ai aucune idée de ce que ça vient faire là, au milieu de cette conversation. La première fois que j'ai vu, c'est d'ailleurs Klein, Yves Klein était niçois, et donc j'étais à Nice aussi, j'ai fait les Beaux-Arts à la villa à Nice. Et en fait, quand je suis tombée sur cette toile en vrai, j'ai eu la sensation d'être aspirée dans cette couleur, tu vois, happé dans ce bleu intense. Ça m'a marqué, ça, comme avec juste de la couleur, on pouvait toucher comme ça, on pouvait être ému. Il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de... Juste de la couleur, tu vois.
Je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites sur cette couleur, mais c'est vrai qu'il est connu pour le bleu Klein, qui est devenu une couleur en plus, mais
ouais.
C'est vrai qu'on est tous touchés par cette couleur, et il y a quelque chose de vraiment étrange. À mon avis, quand même, au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui doit se passer, ce n'est pas possible.
Et puis, c'est du pigment pur qu'il met, donc il y a aussi la texture, tu vois, ce n'est pas juste un aplat lisse, ça prend la lumière d'une façon incroyable, c'est un bleu un peu électrique en même temps, et il y a un truc un peu à la fois naturel et artificiel, tu sais pas trop, enfin, c'est très...
Et ces corps de femmes sur les murs
Oh, ça j'ai pas aimé, non.
Moi c'est ce que j'ai retenu le plus de Yves Klein, oui.
Ah oui, c'est mis avec des femmes pinceaux, là, non, ça c'était un peu minable. C'était tout à fait pour l'époque, oui, voilà, c'est tout à fait misogyne. On est dedans, tu vois, t'avais des mecs en costard qui s'esclaffaient devant des... Ah, c'est génial, des femmes pinceaux à poil, non, mais n'importe quoi. Oui, non, je suis pas admirative de ce genre de trucs.
Alors moi, par contre, je trouve que du coup, on montre le corps de la femme tel qu'il est, puisque vraiment, on voit toutes les formes de la femme sur ses murs, avec les poils, on voit le...
Alors oui, au niveau du résultat de la peinture, pourquoi pas ? Moi, c'était la performance en elle-même que j'aimais pas, ou qui... C'était public, tu vois ? Femme à poils, avec les mecs... Tu vas pas me dire que les mecs, ils venaient pour regarder de l'art, non, ils venaient pour mater des culs de nana, c'est tout. Non, mais on peut se donner des prétextes, hein. On peut s'en donner. Effectivement, c'est confortable. L'art contemporain est très confortable.
Ben merci beaucoup, Maëlys. On va terminer sur ces... sur ces mots. C'était un plaisir de discuter avec toi, de t'écouter.
Et cette interview, c'est un pur moment délicieux sur un divan.
Moi, je me mets toujours à la place de celui qui écoute le podcast ou celle qui écoute le podcast, et j'en écoute énormément, et c'est exactement ce que j'aurais aimé écouter. Donc j'espère que les personnes qui l'auront écouté auront pris aussi ce même plaisir, j'en doute pas trop. Merci beaucoup, Maëlys.
Merci.
Et à très vite pour d'autres aventures.
Oui, à n'en pas douter. À très bientôt.
Cette interview vous a été proposée par le webzine Celle qui ose. Vous l'avez appréciée ? Alors n'oubliez pas de noter le podcast et de nous laisser un commentaire. Remercions Christian Toucas pour le jingle, Morgane Caroline pour le montage, nos invités pour leur temps et bien sûr vous qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.